Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, nous aurions pu parler des Héros ne meurent jamais, de Billy, Un pays qui se tient sage, ou À cœur battant, mais ce sont de quatre autres films en salle depuis le 30 septembre dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour Vincent, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous avez deux films chacun.
Moi j'ai vu Autonome, le nouveau film de François Bégodeau, et un documentaire, et puis le dernier, Aung San Suu, La femme qui s'est enfuie.
Et puis toi, Guillaume ?
Moi, j'ai vu Mon cousin, donc de Yann Kounen, et Joseph, de Aurel.
Et nous aurons aussi deux interviews. Alors, Bégodeau, que tu as vu toi, Manu, et puis toi, Guillaume, tu as vu Aurel. Donc, deux interviews dans cette émission, ce qui explique qu'il n'y aura pas de blind test. On fera un petit rattrapage aussi, même deux, tiens. Il y a Marine qui a pu voir le dernier Gaspard Noé, qui n'aurait jamais dû finalement sortir au cinéma, mais qui est quand même sorti, sans doute parce que voilà, les conditions sanitaires sont là. Et puis, moi, je vous parlerai d'un film qui s'appelle Honeyland, si on a le temps, en toute fin d'émission. Mais on commence par la première interview de cette émission, la parole donnée à des hommes et à des femmes qui ont fait le choix de vivre en accord avec la nature en Mayenne. C'est Autonome de François Bégodeau.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Alors la personnalité de François Bégodeau est assez imprévisible, hein. Ancien professeur de français, ex-critique au Cahier du cinéma, fan de rock, il avait monté un groupe qui s'appelait les Zabriskie Point, et puis de foot au point d'avoir déclaré à une époque qu'il voulait racheter le club de Nantes qui était en déficit. Il a orienté donc sa carrière du côté de l'écriture, devenant l'un des écrivains les plus contestés du moment en raison de ses prises de position politiques et son goût de la provocation. Alors il a connu La consécration avec Entre les murs, adapté pour le grand écran par Laurent Cantet, dans lequel il interprète par ailleurs quasiment son propre rôle, celui d'un prof de français. Alors que sort son nouveau roman, hein, Un enlèvement, hein, charge très caustique contre le milieu bohème bobo, il prend tout le monde à revers en allant rencontrer des gens s'accommodant de la ruralité au cœur de la Mayenne, département un peu délaissé, et finalement très peu filmé au cinéma, même dans le cadre d'un documentaire. Autonome est un film assez passionnant, indispensable même à notre époque où il faut bien réfléchir au concept de décroissance et d'autonomie. Il y a certes un peu de roublardise en intégrant un peu de fiction ou du jeu, en mettant en scène un acteur sorte de fil rouge du projet, mais l'absence de didactisme porterait juste de vrais gens fuyant en partie le système et la rigueur de la mise en scène, car un documentaire c'est aussi du cinéma, hein, font d'Autonome une réussite, hein, d'autant plus touchante qu'il ne prend pas parti. Il ne filme pas une utopie, mais une réalité dans laquelle les individus font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir tout en étant conscients d'appartenir à la société capitaliste. Alors l'intervention de Bégodeau, qui tourne un peu en France, je crois qu'il a 52 dates ou 54, fut aussi très intéressante, montrant une personne peut-être plus humble que ce que la presse en dit, quelqu'un, de, je trouve, d'assez lucide et d'engagé.
Par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on est plutôt dans des conférences de presse ou dans des face-à-face avec les réalisateurs ou les comédiens. Là, alors, il s'agit d'une discussion qu'il a eue avec le public, à l'issue d'une projection, donc une de ses fameuses présentations.
Une de ses 52 projections, voilà.
Et on remercie Loan Musco pour nous avoir donné ce son.
Oui, qui a aussi filmé donc l'intervention.
Ce qui me donne envie à moi de vivre, c'est d'œuvrer pour la Terre.
Moi, je trouve pas que mes personnages soient pittoresques. Je trouve qu'ils sont... au contraire, je les ai voulu assez normaux, en fait. Alors, c'est vrai qu'ils ont, des choix de vie qui sont relativement minoritaires. Ça, ils sont minoritaires, c'est sûr. Mais ils sont très normaux, en fait. Alors après, il y aurait le personnage central, fil rouge. Là, on peut dire qu'il est plus pittoresque que celui-là, ça c'est sûr. Et là, peut-être, effectivement, on peut penser, pourquoi pas, à Striptease. Même s'il y a quand même des interventions de moi, c'est moi qui interviens off, là. Ce qu'il n'y a jamais dans Striptease.
Et quand tu passes des heures et des heures à désherber, c'est comme passer des heures à méditer, quoi.
Pour le coup, on n'est pas enfermé dans des murs ou dans un endroit où on n'a pas le choix de qui, avec qui on est, quoi.
Le pari du film, c'est de mettre ensemble des choses qu'a priori on trouverait dissonantes ou discordantes les unes avec les autres. En tout cas, et donc c'est d'organiser cette espèce de contiguïté entre des blocs de séquences dont le rapport n'est pas évident. Mais justement, je pariais un peu sur le spectateur pour lui-même faire un peu le pont, ce que vous venez de faire ce qui peut courir d'un guérisseur à des fermiers autonomes, en tout cas en voie d'autonomie, en quête d'autonomie.
Ça nous a demandé de lâcher prise sur plein de choses, et puis de faire confiance.
Et il a fallu qu'on ait confiance les uns dans les autres.
C'était quoi le déclencheur, en fait, pour venir ici ?
J'ai ressenti une sorte d'asphyxie à un moment. J'étais carrément en apnée.
L'autonomie, c'est jamais se rendre totalement autonome par rapport à tout, c'est se rendre autonome par rapport à un certain nombre de choses qu'on veut quitter et dont on considère qu'elles nous font du mal. Donc ça, moi, ça fait longtemps que ce mot me travaille un peu. En plus, il est intéressant, ce mot, parce qu'il est compliqué, il est complexe, il est ambivalent. Donc ça, c'est vraiment un vieux questionnement et qui est venu se télescoper avec des circonstances plus contingentes, qui est je me retrouve en Mayenne, je rencontre des gens qui sont plutôt dans cette logique-là, et hop, je me dis, bah tiens, c'est peut-être le moment d'enfin aller affronter concrètement et pratiquement par le cinéma, cette notion d'autonomie, essayer d'un petit peu de déambuler là-dedans, d'explorer cette notion à travers des scènes. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Nous, quand on est arrivé dans le village, on nous prenait vraiment pour des charlots. Mais c'est pas parce qu'on est des charlots qu'on n'a pas le droit, nous aussi, à notre lopin de terre pour gagner notre vie.
Moi, j'ai pas dit que je voulais sauver le monde. Je veux me sauver moi, déjà.
Vous en avez assez d'aller au travail sans envie. Vous en avez assez d'être en puissance face à la pauvreté. Et face aux sans-abri que vous croisez toute la journée.
Moi, je veux bien être dépendant de gens qui auraient des préconisations cinématographiques tout à fait intéressantes. Moi, je demande que ça. Le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est que vous vous retrouvez avec des gens qui ont le pouvoir sur vous parce que c'est eux qui financent. Et dont vous trouvez les goûts et les indications esthétiques tout à fait lamentables. Donc voilà. Alors ça paraît une version très luxueuse et esthétique hein, de l'autonomie, hein, j'entends bien, mais moi c'est ma situation. Je fais avec mon statut de bourgeois cultureux dont le problème est quand même d'arriver à faire les livres qu'il a envie de faire et les films qu'il a envie de faire. Hein. Je mesure bien à quel point c'est des problèmes qui ne sont pas de grande, grande nécessité. Mais moi c'est dans mon domaine à moi et j'inviterai chacun à faire pareil. Que chacun dans sa vie quotidienne se demande mais à quelle dépendance suis-je astreint que j'aimerais bien évacuer. Et ça, tout le monde aura son lot, je pense. Tout le monde pourra se dire bah, dans mon quotidien, qu'est-ce que j'aimerais bien enlever quoi, si on m'en laissait la possibilité. Je n'ai pas d'intention didactique sur le film, hein, c'est pas mon genre, mais pour moi, le film dit moins faites comme eux que. Parce que faites comme eux, à la rigueur, ça faudrait voir. Mais demandez-vous à votre échelle et dans votre domaine d'activité en quoi vous êtes dépendant et en quoi vous pourriez gagner des petites parts d'autonomie. Ça me paraît vraiment une vraie belle question politique, ça.
Lady, give me tonight, cause my thing.
C'était François Bégodeau que nous écoutions. Donc regardez bien son planning. Il va faire bien tout un tas de salles sur le territoire français pour son documentaire autonome. Mais moins d'une heure avec Gaspard Noé, est-ce que c'est supportable ? J'ai l'impression que j'ai en face de moi deux personnes qui l'aiment pas forcément, ce réalisateur.
Non, pas forcément. Mais j'ai aimé au départ, hein, parce que j'aime beaucoup Seul contre tous et puis le tout premier Carne.
Et toi, Guillaume ? C'est plus, pour moi plus un technicien intéressant qu'un réalisateur vraiment profond.
Projeté à Cannes en 2019 sans arrière-pensée, le film est maintenant en salle. Lux Aeterna de Gaspard Noé. C'est Marine qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
T'es déjà brûlé sur un bûcher ? Ce qu'on va faire tout à l'heure ?
Ouais.
Ah non, non, non. Non. C'est classe, hein ?
Ah ouais ?
Ah ouais.
Toi, tu l'as déjà fait ?
Ouais. Ça trop de gueule, Jean. C'est trop chic, parce que t'es la reine du village à ce moment-là.
On arrête tout, j'ai dit. Charlotte, on va détacher.
Le décor est posé, un feu de cheminée, deux célèbres actrices françaises, Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, et une longue improvisation d'un quart d'heure en guise d'introduction, dans laquelle il sera question de cinéma et de sorcellerie. Vous êtes bien devant le nouveau film de Gaspard Noé, Lux Aeterna, le cinéaste le plus controversé de France, qui à chacun de ses films eh bien, trouve une nouvelle façon de marquer durablement les esprits et de réinventer le cinéma en tant qu'expérience sensorielle. Lux Eterna est un film qui repose sur la dualité. Dualité physique évidente entre ces deux interprètes principales, Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, qui jouent ici leur propre rôle. La dualité visuelle, puisque la réalisation fait beaucoup appel au split screen, l'écran étant partagé donc en deux à plusieurs reprises. Et le projet lui-même est totalement hybride, puisqu'à la base, eh bien, c'est une commande et une production de la maison de haute couture Yves Saint-Laurent, le directeur artistique de la marque ayant décidé de laisser carte blanche à différents artistes pour mettre en scène l'état d'esprit de la griffe de luxe. Seule contrainte pour les artistes, mettre en scène les égéries de la marque, ici Charlotte Gainsbourg et quelques mannequins à qui reviennent les seconds rôles, et leurs vêtements. Lux Eterna est donc entre la publicité et le long métrage, c'est un moyen métrage réunissant un cinéaste français subversif et une marque de vêtements de luxe. Autant dire tout pour que le film fasse beaucoup parler les gens, y compris ceux qui ne l'ont pas vu. Car il n'était pas prévu pour le film à la base qu'il sorte sur les écrans. Lux Eterna a initialement été diffusé au Festival de Cannes en 2019, à la séance de minuit, séance dont Noé est un grand habitué. Il sort finalement cette semaine avec 47 copies en salle. Précisons d'ailleurs que le film a pour le moment réalisé un nombre d'entrées étonnamment haut au regard de son format et de la période difficile que les salles traversent.
Charlotte, tu brûles !
Détachez-moi ! Détachez-moi !
Lux Eterna est divisé en trois séquences. Une première séquence assez rock'n'roll dans laquelle Béatrice Dalle, qui est ici en train de réaliser son premier film, discute avec son actrice, Charlotte Gainsbourg. Une seconde partie qui se déroule pendant le tournage dans lequel absolument mais rien ne va. Les producteurs conspirent contre la réalisatrice, les comédiens deviennent hystériques et l'équipe, d'une façon générale, se disloque. Un peu comme dans Climax, Noé capture des bribes de conversation, d'énervement, comme pour se moquer de la nature humaine et surtout se moquer du cinéma en nous le faisant vivre de l'intérieur. Au travers de cette seconde partie, il fait d'ailleurs preuve d'un certain second degré qu'on ne lui connaissait pas et qu'il éloigne de ses démonstrations formelles, souvent assez peu légères. Puis de métafilm, Lux Eterna vire à l'expérimental avec une dernière séquence qui prend l'apparence d'un crescendo halluciné constitué de lumière stroboscopique, totalement déconseillé d'ailleurs aux personnes épileptiques, et qui fait du film l'expérience sensorielle la plus radicale de sa filmographie. Comme dans ses films précédents, Noé nous met donc face à notre propre voyeurisme en nous immergeant dans la réalité d'un tournage entouré de comédiens qui jouent leur propre rôle pour finalement nous punir en nous faisant subir 10 minutes de lumière aveuglante accompagnée de sons saturés. Un film comme à son habitude donc hors norme qui ne fera certainement pas l'unanimité auprès des spectateurs.
Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu de film de Yann Kounen, le réalisateur de Doberman, Blueberry et 99 francs, met en scène Vincent Lindon et un cousin gaffeur, Pierre Richard. Et non, c'est pas Pierre Richard, c'est François Damien, c'est dans Mon Cousin. Donc, et tu vas nous en parler, Guillaume.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Cousin ! Ah, tu m'as manqué !
Je le vois jamais, quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou. Mon putain de cousin! Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort.
Il faut juste le signer là dans la petite case.
Il a signé?
Non.
Alors c'est un retour plutôt attendu sur les écrans hein, et il procure une réaction assez identique à un gros repas de famille composé de gens que l'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc ça tombe relativement bien parce que c'est peu ou prou ce dont on parle le film de Yann Kounen. Le cousin du titre, c'est Adrien, joué par François Damiens, qui détient 50% des parts de la société tenue par Pierre, interprétée quant à lui par Vincent Lindon. Ce dernier est sur le point de conclure un contrat record pour son entreprise, mais il ne peut rien faire sans la signature d'Adrien. Le problème qui se pose est bien sûr évident, les deux hommes sont radicalement opposés, et le PDG agressif va devoir trouver un moyen de convaincre le doux rêveur de plier à sa cause. Le souci est que, les affaires, Adrien, il s'en cogne un peu. Ce qu'il voit dans cette tentative d'approche de Pierre, c'est de recoller les morceaux d'une famille séparée depuis trop longtemps et de renouer les liens du sang avec les liens du cœur. Dans l'entreprise, c'est de taille, car en affaires comme en sentiment, on ne plaisante pas.
Il veut être moi tout le temps, dans ma bagnole, à la maison, partout. Il veut être moi, voilà, tu comprends.
Les
hommes, laisse-moi. Mais je m'en fous, qui m'aime. Je veux qu'il signe.
Toi. Depuis qu'il est là, tout se casse la gueule. Les ascenseurs, les actions, les hélicoptères.
Marre des
des conneries ! Marre des dingues !
On peut dire que la réunion de famille commence dès le générique de début. Pour l'amateur de cinéma qui sort des sentiers battus, le nom de Richard Grandpierre au poste de producteur ravive des souvenirs d'il y a presque 20 ans. Derrière ce nom se cache l'un des rares producteurs ayant tenté l'aventure du cinéma dit « de genre » à la française, avec plus ou moins de bonheur artistique ou commercial. Derrière Les Morsures de l'Aube, Le Pacte des Loups, Irréversible, Saint-Ange, Le Convoyeur, Hills, Martyr ou encore Dante 01, c'est lui. Et il était donc prometteur de le voir associé au nom de Yann Kounen, lui aussi ex-enfant terrible du cinéma français, n'ayant pas vraiment œuvré dans le genre depuis quelques années. La réunion de ces deux personnalités nous renvoie donc à une époque où ces deux noms étaient assez gros et étaient surtout synonymes pour le public d'un grand espoir en la démocratisation d'une production française plus éclectique et impertinente. On sait désormais que ce ne fut pas le cas, et ce malgré les millions d'entrées du Pacte des Loups pour Grandpierre et le coup de poing que fut le polémique Doberman pour Kounen. D'ailleurs, on retrouve aussi au nom du générique le nom du producteur de Doberman, Éric Névé, à qui le film est dédié, ce dernier nous ayant quitté l'année dernière. Ce nouveau superviseur pour Kounen reste en famille par l'esprit car il avait produit une autre comédie décalée, Enfermé dehors d'Albert Dupontel, que l'on retrouve en caméo avec, tiens, Gaspard Noé et Yann Kounen dans une courte séquence du film. Les trois compères jouent des fous s'amusant à essayer de parasiter un coup de fil de Vincent Lindon dirigé vers le docteur de François Damiens. Quand on vous dit que les liens du sang et du cœur sont importants...
Votre cousin est très sensible. Il peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre.
C'est plus parler en 24 heures à toute ton équipe qu'à toi en 35 ans. T'étais pas comme ça.
Les gens, ils ont besoin qu'on leur montre qu'on les aime.
Y'a que toi, toi, tes actions, ton apéritif à la con, là.
On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça coule, hein.
Qu'est-ce qui se passe?
On vient d'entrer en collision avec un volcan sauvage.
Je le savais.
Cette réunion fait-elle pour autant un bon film? Eh bien, le sentiment est assez mitigé. La couleur est annoncée toujours d'après ce générique de début, décidément bien évocateur. Le symbole du yin et du yang, tournant dans le haut de mon cousin, élaboré à l'aide d'une police d'écriture esthétiquement soignée, nous laisse deviner une bonne partie de ce qui nous attend. La mise en scène est très travaillée, mais pas forcément de bon goût. Le jeu d'acteur est soutenu, mais pas toujours de qualité. Vincent Lindon est très à l'aise dans un rôle qu'il maîtrise bien, lui qui a construit une partie de sa carrière dans ce qu'on pourrait appeler la Lindonsploitation, c'est-à-dire des films sociaux mettant en scène des rapports de force entre gens du peuple et patrons tyranniques. François Damiens, lui, est indéniablement sympathique, mais peine à emporter totalement l'adhésion dans ce rôle de doudin qui manque de nerfs. On aurait aimé qu'il apporte plus de folie, comme Kounen était capable de le faire lors de ses débuts explosifs. Mais ça serait oublier le tournant spirituel que le réalisateur a pris dès son non moins controversé western Blueberry en 2003. Le personnage d'Adrien est donc à cette image plus tranquille et avenant que rock'n'roll. Il cherche à régler les tensions entre les gens, se laisse guider par un instinct un peu métaphysique qui débouche sur des conclusions étonnantes et presque divines, et cherche une paix sincère là où il n'y a que des apparences, y compris dans toutes les familles mises en scène dans le film. Mon cousin a donc plus de parenté avec La Chèvre de Francis Weber, version light, hein, que le hardcore Festen de Thomas Vinterberg. Même si l'attendu moment plus sombre du film, où on découvre la raison des différends entre les deux garçons, comporte un petit retournement de situation symbolique très bien trouvé, qui redonne du peps à l'appréciation générale. Pierre Leloup comprend le Pierrot lunaire que cherche à retrouver Adrien dans ses mémoires du passé. Sentiment mitigé donc, hein, qui sera véritablement tranché par l'appréciation ou non des spectateurs suivant leur degré de tolérance à l'agissement du réalisateur. On peut tantôt s'irriter des chemins balisés parcourus par le scénario ou la lourdeur des symboles, comme apprécier les situations hors normes et toujours exagérées du chemin des héros. Une fantaisie à l'image de ses auteurs.
Eh bien, ce film de Yann Kounen, qui fait un peu son retour, est en salle depuis le 30 septembre. C'est aussi le cas du film de Hong Sang-soo, qui filme quatre amis déçus par leur vie de couple. Et tu n'as pas pu rater ce film, Manu, puisque c'est ton réalisateur fétiche. En tout cas, le réalisateur coréen fétiche. Donc, tu vas nous parler de La femme qui s'est enfuie.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, au détour d'une conversation avec une de ses amies, lors de sa première rencontre, la protagoniste principale, Ngemi, apprend que la femme qui habite en face de son amie s'est enfuie, abandonnant son mari et sa fille. Alors, ce serait elle, la fameuse femme qui s'est enfuie. Alors, sauf que cette histoire va rester à l'état d'anecdote, plaçant le spectateur dans un état de frustration, déçu de ne pas en apprendre davantage. Mais cette historiette, en fait, n'est qu'un leurre. Chez Hong Sang-soo, les événements les plus anodins se décuplent, rentrent en résonance avec les personnages. Il existe toujours dans le cinéma du coréen une réversibilité ou un effet miroir. Cet effet miroir concerne évidemment l'héroïne, Gami, qui est sans doute, mais là encore rien n'est sûr car tout est suggéré, jamais explicité, cette femme qui s'est enfuie. Elle ne cesse de répéter à ses convives, des amis de longue date, qu'il s'agit de la première fois qu'elle se sépare de son mari. Alors pas dans le sens de séparation, mais juste être sans lui ne serait-ce qu'une seule journée. Elle évoque la relation conjugale à travers les mots de son mari, persuadée que la liaison fusionnelle est une preuve d'amour indéfectible. Mais qu'en pense-t-elle finalement ? On ne le saura jamais vraiment. Elle ne cesse de répéter d'ailleurs le même discours à chacune de ses retrouvailles, mais au détour d'un plan, une tristesse se lise sur le visage de cette jeune femme heureuse en apparence. Mais au fond, que raconte le 24e long métrage de Hong Sang-soo en 24 ans hein ? L'essentiel est là, dans les subtiles variations d'un cinéma qui ne cesse de traiter finalement le même sujet, la rencontre. Mais nouveauté, il s'agit ici de rencontres entre femmes, évoquant pour une fois la notion de désir et de séduction dans une visée charnelle. Le talent naturel de Hong Sang-soo éclate encore une fois avec un dispositif d'une désarmante simplicité, créant un récit atone en surface, mais d'une intelligence peu commune. Gami rend visite donc à trois amis, pendant que son mari est en voyage d'affaires. Alors chacune des visites va être interrompue par un homme, créant une rupture, un malaise, laissant planer une inquiétude, brisant l'espace de paix qui se joue dans chacun des trois mini-récits. Alors en effet, Hong Sang-soo filme des femmes, souvent attablées alors autour d'un repas et d'un verre, cadre fétiche du cinéaste, les échanges sont cordiaux et convenus, mais ancrés dans un réalisme assez inhabituel au cinéma, sont évoqués la nourriture, la viande, la boisson, le voisinage, l'immobilier, finalement des petits riens qui rythment nos discussions avec autrui. Alors il se glisse aussi des questionnements plus philosophiques, indiquant le bien-être de ces femmes à se retrouver ensemble. Alors ce havre de paix, hein, très rassurant pour Gami, venu sans doute chercher du réconfort, se trouve soudain violenté par l'irruption des hommes lors de chaque rencontre. La première apparition est aussi la plus drôle et absurde. Un voisin se plaint des chats errants lors d'une conversation assez hilarante et absurde sur la place des êtres humains et des animaux, hein, donc des chats, d'un point de vue existentiel. Ensuite, un poète maudit, insiste lourdement sur le palier pour renouer une relation qui n'a jamais commencé. Et enfin, un metteur en scène, marié aujourd'hui avec une de ses amies, met soudainement Gami très mal à l'aise. Tout converge en fait vers cette ultime rencontre où on peut on n'a pas besoin de projeter en disant que le metteur en scène, c'est Hong Sang-soo lui-même. Tout converge donc vers cette ultime rencontre déchirante, presque intime, car il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre donc qui est ce personnage. Et on se dit que là, Hong Sang-soo n'a jamais été tendre avec les hommes, hein, tour à tour lâche, immature, toujours auto-centré, mais jamais il ne les avait dépeints sous un jour aussi négatif, presque destructeur. Alors il le fait sans rien appuyer, un simple mot, un geste déplacé, une attitude suffisent pour instaurer une angoisse existentielle dès l'apparition de ces figures perturbatrices. Alors la femme qui s'est enfuie laisse aussi, néanmoins à la première vision peut-être une impression d'inachevé et même d'amertume. Hong Sang-soo semble perdre un tout petit peu d'inspiration avec ce film anodin à la structure linéaire et à la photographie solaire comparée au précédent House by the River, hein, qui était une splendide horizon funèbre. Mais derrière la marque de fabrique du cinéaste, hein, avec ses zooms incongrus et ses compositions musicales minimalistes, se cache un magnifique portrait de femme, en l'occurrence celui de Gami, interprété avec une grâce inouïe par Kim Min-hee, tout en intériorité. Alors la qualité d'écriture du film, souvent à double voire triple fond, se construit avec le temps, bien après la projection du film. Les personnages continuent à nous hanter et certains événements finissent par prendre un sens différent. C'est ce qui rend sans doute très précieux le cinéma de Hong Sang-soo.
Grand succès critique, La femme qui s'est enfuie de Hong Sang-soo est en salle depuis le 30 septembre, tout comme le film de Aurel, qui est un dessinateur à la base, hein, et qui raconte les diverses périodes de la vie de Joseph Bartoli, combattant anti-franquiste. Et tu as vu le film, Guillaume, mais tu as aussi rencontré Aurel, et donc on va pouvoir l'écouter dans Cinérama.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Joseph est le premier film du dessinateur Aurel qu'on connaît surtout pour ses publications dans Le Monde ou dans Le Canard Enchaîné. Donc ce long métrage, il pourrait être vu comme une continuité de son travail sur papier, parce qu'il est question d'un homme, donc le Joseph du titre, qui va dessiner son environnement proche pour questionner ce qu'il est en train de vivre et laisser un marqueur temporel sur une époque trouble et difficile. Donc Joseph Bartoli est un dessinateur catalan qui a fui le régime de Franco en 1939, et comme beaucoup de républicains, il fait le choix d'atteindre la France France où il espère pouvoir y trouver asile. L'accueil n'est cependant pas celui qu'il imaginait car le gouvernement, dépassé par cette vague massive d'immigration, est très rapidement submergé et parque ses nouveaux arrivants dans des camps temporaires. La situation va malheureusement durer et les conditions de vie compliquées de ces internés ne vont pas être la préoccupation majeure d'une année noire qui va aboutir au lancement définitif de la Seconde Guerre mondiale. Donc Joseph continuera son périple jusqu'à New York et croisera même la route de Frida Kahlo, l'occasion de redonner un peu de couleur à cet horizon bien sombre. Pourtant, dans son camp, Joseph lui connaîtra un rayon de soleil en la personne d'un gendarme compatissant et qui va l'aider à surmonter ses épreuves. Le réalisateur réussit le pari complexe de raconter l'épisode éprouvant de la retirada, cet exode des réfugiés espagnols de la guerre civile, en un temps compacté d'un peu moins d'1h20 quand même. Donc pour ce faire, il fait le choix d'une narration personnifiée et en flashback où un grand-père va tisser un lien avec son petit-fils, jusqu'alors réfractaire à l'idée de passer du temps avec lui. L'aïeul va réussir à créer un pont familial avec l'histoire et amener le sujet, comme Aurel, en direction des plus jeunes générations. Il fait le choix d'une animation simple qui se divise en deux mouvements. Celle du présent est fluide, tandis que celle du passé est plus saccadée, comme un souvenir qui reprend forme au fur et à mesure de l'échange et des fantômes du passé refaisant petit à petit surface. Il est quand même dommage, je trouve, que les Français ne soient perçus que comme des personnages assez monstrueux, à part le gendarme tolérant, à cause d'un choix scénaristique un peu douteux mais assumé par le réalisateur en interview, de condenser plusieurs figures positives ayant existé en une seule, pour des raisons narratives et dramatiques. Bon, malgré cela, Joseph est, si on peut dire, vu la tristesse du contenu, c'est un joli film sur une page sombre de l'histoire, doublé d'un beau plaidoyer pour l'art et sa nécessité citoyenne, autre sujet malheureusement d'actualité. Il fait espérer que l'on accorde plus d'importance à l'animation française qui prouve régulièrement sa qualité, à défaut de remplir correctement les salles face aux mastodontes américains, parfois bien moins incarné.
Et Aurel, tu as pu le rencontrer. Malheureusement, la prise de son n'est pas idéale. On s'en excuse tout de suite, mais on a quand même tenu à passer quelques mots du réalisateur et dessinateur pour son film Joseph.
1939, ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Régalez-vous!
Alors, il y avait bien quelques gestes.
Tenez, c'est pour vous.
C'est là où ça peut avoir un intérêt que moi je sois dessinateur et que je raconte cette histoire, c'est que je peux insuffler au personnage de Joseph cette approche du dessin qui est en fait qui est quelque chose qui une continuité de nous-mêmes en fait. Donc il y a un peu deux catégories de dessinateurs, ceux qui ont le dessin comme outil purement et simplement, donc ils veulent raconter une histoire, ils prennent le dessin, et puis ceux pour qui c'est une continuité naturelle et de même et un besoin physique et psychique. Et c'est mon cas, moi je suis dans ce cas-là. Et j'ai projeté ça sur Joseph en disant que dans ces conditions-là, le dessin est un atout phénoménal.
Tiens, saloperie d'Espagnol de merde. Tiens.
Et après?
Oh, après.
C'était Aurel dans Cinérama, donc le réalisateur de Joseph, film d'animation en salle depuis le 30 septembre. On se fait maintenant un petit rattrapage avec une fable documentaire écolo, c'est Honeyland.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Nominé aux Oscars où il n'a rien eu, Honeyland, de deux réalisateurs macédoniens, Tamara Kotevska et Lubomir Stefanov, dont je prononcerai le nom qu'une seule fois, eh bien ce film a tout de même remporté le grand prix du jury du documentaire étranger au festival de Sundance, mais même sans cela, eh bien le film vaut le coup d'œil, autant pour son approche délicate et son étrangeté que pour le discours qu'il sous-tend et qui mettra tout le monde d'accord, à savoir l'homme a tort de surexploiter la nature à tout va. Les deux réalisateurs sont allés dans un coin de Macédoine, un village fait de ruines où il n'y a ni eau ni terre à cultiver, pour y rencontrer Atidze, une agricultrice qui s'occupe de sa mère Nazif, constamment alitée. Alors le film nous immerge immédiatement dans des paysages âpres et grandioses. Les réalisateurs nous laissent entrevoir le travail de Atidze, qui a une méthode alors imparable pour récolter le miel. elle laisse la moitié de la récolte aux abeilles. Elle s'en va ensuite vendre son miel très apprécié sur le marché de Skopje en rapportant des bananes qui deviennent un dessert raffiné. Cette relation à la nature va être rompue dans une séquence alors digne d'Emir Kusturica ou Ettore Scola, durant laquelle toute une famille avec 5 enfants débarque sur un camion avec une caravane tirée derrière et un troupeau de vaches. Alors il s'agit d'une famille turque qui s'installe donc dans cette région qui est turcophone. Alors qu'on se trouvait hors du temps, le spectateur va se retrouver en prise avec un récit dramatique cette fois-ci, face à l'exploitation raisonnée voire romantique des abeilles de Hadzits. Le père de famille en face, eh bien, lui, a d'autres projets. Il va se lancer dans la surexploitation du miel en installant plusieurs dizaines de ruches. On voit là le carnage. Alors tout pour l'un, rien pour l'autre. Dans ce documentaire qui sent bon la fable, l'issue n'est pas forcément celle qu'on croit. Alors peu de dialogues viennent parasiter l'image qui se concentre alors autant sur les lieux que sur ceux qui l'habitent et comment eh bien, ils habitent ces lieux. Ainsi s'achève Cinérama.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, on vous parlera de Relique et de L'Enfant Rêvé, en face de Ultramarine, qui vous parlera de ça. Et toi, Manu ?
Un documentaire ukrainien qui s'appelle We Are Soldiers.
Et on aura préparé un blind test. À la semaine prochaine.